choses à dire. Par où commencer ? On va commencer par son système d'écriture, peut-être. Vous savez qu'il avait opté pour le système sériel au début de sa carrière, mais il ne l'a jamais énormément pratiqué. Néanmoins, il me semble qu'on perçoit encore une influence, non pas de la série, mais du dodécaphonisme en tout cas. Alors, il commence par un ensemble de 6 sons. Et puis arrive à la fin de la deuxième mesure les sons 7 et 8. À la troisième, le neuvième son. C'est le ré, pardon. Dixième son, le bémol. Et c'est au système suivant qu'arriveront 11 et 12. Alors, il pratique ce qu'il appelle la série interpolée. Vous l'avez à l'exemple numéro 3. Donc, j'ai pris ce texte. Hein. En dessous de nos dos. C'est en numéro 3. Et on le sent, je dirais, effectivement, parce qu'on va trouver chez lui ces petits clusters proches du chromatisme, des sons très proches. Des petits ensembles de sons, des petites cellules d'agrégats qui sont très proches. Et quand les sons vont démarrer ici, la sol, et puis au-dessus à la main droite, on a le si, souvent ça part un peu d'une façon chromatique, je dirais. On a souvent des sons, pas nécessairement que des demi-tons, mais des sons rapprochés. Une chose qu'on peut dire aussi en voyant ce premier système, c'est qu'il démarre avec ce que Boulez appelle les champs de fixité, pas chez Leno, c'est une expression de Boulez. Des champs de fixité, ce sont des périodes où le compositeur utilise que les mêmes sons et les répète. Si je vous joue la main droite, vous voyez les mêmes sons sont répétés, avec des différences dans les dynamiques, et c'est ça qui fait l'intérêt de sa musique, évidemment, qui donne l'expression de sa musique, dans les dynamiques et dans le toucher, dans les accents. Et là, on a un registre aigu, à la main droite, dans les deux premières mesures. La main gauche commence dans l'extrême grave, presque l'extrême grave, par cet agrégat. Et, fin première et deuxième mesure, vous voyez que ce sont aussi les mêmes sons qui reviennent. Donc ça fait deux registres extrêmes. À la fin de la deuxième mesure, à la portée intermédiaire, qui est écrite en clé de fa, vous voyez le registre moyen, ce que j'appelle moyen grave, si, qui se poursuit à la troisième mesure, à la main droite, en clé de fa, avec les ré, et puis dernière mesure, les mi bémol. Donc il va travailler dans ce début d'œuvre avec des registres bien distincts et des champs de fixité de son. Sur le plan rythmique, sur le plan de la notation, il s'agit donc d'une partition manuscrite, en fait, c'est très bien écrit. Comme je vous l'ai dit, la bande ne figure absolument pas sur la partition, je parlerai de mon travail après. Elle est écrite souvent en 4 temps, mais il note rarement les indications de mesure. Hein. C'est souvent 4 temps, parfois 3, parfois exceptionnellement 5. Il n'indique pas toujours les changements de mesure. Les tempi sont lents. Ici, je crois que ça n'a pas si ça paraît. Ils vont de 35 à 72, toujours à la noire. Ici, on a 60 qui ralentit vers 44 et puis vers 40 à la fin du premier système. La ralentado ne figure pas bien sur les exemples, hein. Mais ce sont des ralentado. Alors ça aussi, c'est un paradoxe, puisque en fait, ça semble laisser à l'interprète une sorte d'organisation, d'interprétation, parce qu'un ralentado, on le fait un peu comme on le sent, Or, il y a là une bande, une partie magnétique qui n'est pas écrite et avec laquelle il faut être ensemble. Donc, c'est une œuvre pleine de... Enfin, c'est plein de paradoxes pour moi. Mais il y a aussi certaines explications, je crois, concernant sa personnalité. Donc, les rythmes sont irréguliers, beaucoup de valeurs irrationnelles, mais très précis. Il travaille beaucoup sur les quintolés. Vous envoyez au registre tout à fait inférieur à la troisième mesure. Il y en a deux dans ce premier système, mais par la suite, on va en trouver très fréquemment. Donc ici, deux dans le premier système à la troisième mesure. Ces rythmes sont très précis. Cependant, il utilise l'appoggiature, la petite note barrée. Alors, je vais vous faire écouter la bande, le début de la bande seule. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Pour la première fois, là c'est peut-être un petit peu plus facile parce que vous voyez bien quand je ne jouais pas et quand je jouais, donc là c'est plus facile. Mais quand on la suit au disque, c'est impossible. J'ai fait l'expérience avec un ami compositeur qui est très bon orchestrateur, qui a l'habitude des partitions énormes, et il était complètement perdu. Il me dit, mais enfin, il n'y a rien noté, j'ai dû lui dire 10 fois, non, il n'y a rien noté. Alors là, je peux vous parler un petit peu de mon travail, puisqu'on est sur un exemple bien précis, et ce sera la même chose pour toute l'œuvre. En fait, j'ai dû travailler carrément sur l'enregistrement de Poulenc. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, il faut jouer exactement comme lui. Je déteste faire ça. J'ai évidemment une profonde admiration pour Poligny. Là n'est pas la question. Mais je déteste travailler sur l'enregistrement de quelqu'un. Moi, j'ai envie de faire le mieux possible, mais pas comme l'autre, même si je l'admire. Et là, on est obligé pour être ensemble. Et ça m'a permis de petit à petit commencer à noter sur ma partition des éléments de la bande qui étaient importants. Je peux vous dire que c'est la première fois que j'entends aussi bien parce que là j'ai vraiment les diffuseurs à ma portée, c'est d'ailleurs comme ça que ça doit se faire. Quand je joue à la maison, que je travaille avec cassette ou avec le CD, si je mets le CD, j'ai des diffuseurs qui sont là, donc il y a des choses qui m'échappent complètement. Donc ce qui est important, je l'ai noté sur la partition, et surtout les points, évidemment, aux transitions où je dois repartir. Je crois que, je ne sais plus si sur vos exemples figurent des petits traits verticaux, il y a les « là » qui figurent, vous voyez les « là » des cloches, là, au début, et ces cloches, ce sont donc les cloches de Venise qui répondent aux notes du piano. Et je pense que ce serait intéressant, parce que là, tout le monde a cette partition, de faire une fois le premier système ensemble. Il y a quand même des moments où on est un petit peu en avant ou en arrière de la bande. Les lala me calent bien, les cloches, les sons des cloches me calent. Et aussi les petits, les petites clochettes verticales, comme ça je le note. Et puis je sais que si je suis un peu avant, là je dois démarrer. Donc c'est un travail, moi j'ai appelé ça un travail de bénédictin, parce qu'il faut essayer de noter le plus possible. Comme je vous dis, il faut travailler avec Poligny. Et puis petit à petit, on commence à travailler seul. La notation de Nono, lui, il dit, il met un minutage au moment où il y a des transitions un petit peu plus longues. Mais si vous jouez au chronomètre, il est certain que d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais mon chronomètre ne marquait pas la même chose que son disque. Et puis, on reçoit donc le CD hein, de la bande avec la partition. Et ça ne marchait pas du tout, on n'était jamais ensemble. Alors, comme j'aime faire les références au passé, je voulais vous jouer le début des Oiseaux tristes de Ravel, parce que je trouve qu'il y a une grande raison, enfin, une sorte de parenté, de filiation. Je ne sais pas si Nono y a songé, mais moi je trouve qu'il y a ces cloches qui apparaissent. Quelques notes, et puis autre, un petit frère, et puis aussi il va de registre en registre. Enfin, moi ça me touche de voir cette parenté entre le début de ces œuvres. Je vais poursuivre alors avec le deuxième système que vous n'avez pas. Donc là apparaissent les sons 11 et 12 au début qui sont mi et sol. Donc moi je vois quand même un aspect un peu de décaphonie, mais libre. Hein. Donc c'est-à-dire que les sons ne sont pas exposés dans n'importe quel ordre en se chevauchant, si vous voulez. Chaque son arrive en son temps. Et il y a aussi quelque chose qui est très important là, et que malheureusement j'ai pas songé à mettre sur l'exemple, c'est un agrégat que vous trouvez quand même ici dans l'exemple numéro 2 au milieu. Vous le trouvez sous cette forme-là, qui est ici réparti. C'est l'agrégat qui, dans l'aigu, qui va servir et qui sera répété de différentes façons dans toute l'œuvre. On va le trouver. Là, ici, dans cette deuxième séquence, la structure est assez voisine de la première. C'est un complément. Je vais vous la jouer au piano seul. L'accord qui revient aussi, le premier accord qui revient. Et ici on a les deux ré mi comme on avait au premier système. C'est-à-dire que c'est le même matériau qui revient, cet agrégat grave, celui dans l'aigu, et puis le médium grave du premier système. Alors je vais passer à l'exemple numéro 3 d'abord, ce sera plus facile pour la bande, qui se trouve page 14. Donc c'est là où on est juste à la moitié de l'œuvre, on commence la deuxième moitié de l'œuvre, c'est à 6,50. Et c'est un enchaînement qui se fait par tuilage. Et là on a donc un changement d'écriture dans cette deuxième section. Des changements d'écriture, qui est évidemment des parentés, et c'est ici qu'on a cette violence, cette partie de deuxième piano non transformée, donc c'est un dialogue entre les deux pianos, là aussi pour le jouer plus ou moins ensemble, je peux vous dire que c'est vraiment la croix et la bannière. J'ai noté certaines choses sur ma partition, j'ai réussi à noter certaines basses, mais arriver à distinguer les deux pianos, c'est très très difficile. Donc c'est un enchaînement qui se fait par tuilage, par la transition avec la bande. Donc vous pouvez peut-être nous passer 6,40.
Thank you.
J'ai donc réussi à noter certaines basses. Il y a des personnes qui sont perçues, des deux la bémol, etc. à certains moments. Et là, je reparviens à recaler enfin, je vois où je suis, exactement. Sinon, c'est pratiquement impossible de voir où on est. Et au moment où ces caractères stridents s'arrêtent, il y a ces petits agrégats. Là, je sais qu'après ce premier agrégat, je vais avoir un ré. Après les autres, je vais avoir un ré. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui me remettent en scène si, par hasard, et ça arrive, je suis un petit peu en avance. Bon, je suis toujours en avance, jamais en retard. À ce moment-là, je suis là, et je pense que je peux le dire sans honte, je crois que ça doit arriver à tout le monde. C'est très difficile, quand on n'a pas des points de repère à tout moment. Je sais que si je suis un tout petit peu en avance, je fais cet accord et j'attends le ré. Je ne sais pas si on a exactement le même chronométrage. Vous pouvez peut-être remettre à 7,20, s'il vous plaît. Avant finalement de décrypter exactement toute cette partition. Vraiment, et chaque fois que je la travaille, j'arrive à réécouter quelque chose, un petit élément qui me permet de refixer et de me dire je suis, c'est bien, ou là je dois démarrer, etc. Ça prend énormément de temps, ça m'a pris des mois. Et finalement, je dirais que, à part ces petits passages où là on se perd un petit peu, en général les gros passages fortés, on n'a pas énormément de points de repère. Il y a un passage précédent également, c'est pareil. À part ces passages-là, je dirais que je suis plus à l'aise pour le jouer que le marche, parce que le marche, il faut vraiment être en même temps que la bande. Et ça, c'est encore plus difficile, parce que ici. Si je joue avec ce partenaire invisible, mais que je perçois bien sa partition et que je perçois bien les éléments qui sont en rapport avec la mienne, eh bien finalement j'arrive presque à être à l'aise, même s'il y a des moments où je dois un tout petit peu l'attendre. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Oui, je voulais parler de la troisième section, qui est donc l'exemple numéro 2. C'est là où il va reprendre ces éléments du début. Il va reprendre les éléments du début. Si vous comparez, c'est pour ça que je les ai écrits de façon superposée, vous voyez qu'il va reprendre avec le « la » et le si bémol, qui sont donc des sons que vous avez au départ. Et là, il reprend non pas comme une cloche qui va teinter, qui va s'effacer, s'estomper dans les canaux vénitiens, parce que n'oubliez pas cette présence de Venise. Là, il va reprendre, au contraire, en allant vers une stridence, vers un accent. Donc moi, avec la banque, je sais que quand j'ai si... Et moi, je repars. Donc là, c'est à 9,17. Je peux avoir 9,12, s'il vous plaît ? Voilà. Alors, c'est 54 à la noire, c'est beaucoup trop rapide. Alors, dans toute la troisième section, il y a des modifications ou des erreurs. Alors là, je peux vous les signaler. Soit ici, c'est beaucoup trop rapide, ou il a modifié le tempo et au lieu d'être à 54, il est à 100, parce que... 2. Ce n'est pas du 54. Alors évidemment, au début, moi, j'étais complètement perdue, je me demandais où j'allais. Et puis quand j'ai pu fixer certains éléments mélodiques du ce que j'appelle le deuxième piano, la bande, je me suis aperçue que la mesure ne correspondait absolument pas. Donc soit c'est un autre tempo, soit est-ce qu'ils ont modifié à l'enregistrement, pourquoi cette partition est-elle publiée de cette façon? C'est un mystère. Il n'y a pas ce cas auparavant, c'est vraiment dans la troisième section. Il y a aussi une grosse erreur, je vous le dis, si vous travaillez cette partition à fond, c'est page 16. Là, tout de suite, même au déchiffrage, ça m'a étonné pour ceux qui ont la partition. Il y a un moment à la 5e mesure, à 66 à la noire. Là, il a écrit clé de fa à la main droite. Et si on le regarde bien, on voit mi dièse et l'écart. Moi, je me suis dit qu'il y avait une erreur et j'ai cru que, comme on avait eu beaucoup de do, bécard, do, dièse, c'était à jouer en clé de sol et que la clé de fa arrivait une mesure après. Donc, au début, je l'ai travaillé de cette façon. Et puis, je me suis aperçue, en écoutant attentivement Paulini, que lui, il jouait ici en clé de fa, do, do, bécard, en clé de fa. Voilà, alors j'ai fait comme lui. Donc, ça, c'est en tout cas une erreur dans la partition. Sinon, le reste, ce sont des changements de mesure. Est-ce qu'ils ont trouvé que les tenues étaient trop allongées? Est-ce qu'il a oublié un changement de tempo? À certains moments, on pourrait songer qu'il a oublié d'indiquer 100 à la noire. Pourtant, ce n'est pas dans ses tempi habituels. Je me poserai toujours la question, mais moi, je n'ai pas trouvé. Alors, il y a aussi, au point de vue... si vous êtes intéressé par le travail de l'interprète, il y a aussi un passage qui est très, très difficile à mettre en place parce qu'il y a des accords qui se répondent aux deux pianos. Et à l'audition, en plus ce sont les mêmes accords parfois, donc à l'audition je ne savais pas quel était le premier, quelle était la bande. Puisque moi quand j'écoutais le CD, c'était pas décelable. Donc petit à petit, j'ai vraiment réécouté des centaines de fois, je me suis aperçue de ce qu'il fallait faire. Si vous voulez... Je vais vous rejouer ce passage. Alors, on pourrait reprendre à 10:36. La diffusion, donc c'est difficile. Mais vous voyez, il y a des accords. Là, si vous rejouez juste deux, trois mesures avant, le même accord qui se répond au piano et à la voix. On a de nouveau le même système, un peu plus loin. Donc, il n'a pas transformé le son, enfin, à mon avis, le son du piano. Donc, là, c'est un problème de mise en place. Il y a aussi un endroit à la page, en dessous de la page 17, où là, finalement, j'ai fait un petit peu comme je pouvais, parce que c'est indissociable, les accords du piano et de la bande. Alors, moi, je voulais vous dire aussi qu'il y a des choses intéressantes à lire, que je vous conseille vraiment vivement de lire. C'est sur une pochette de disque. C'est l'enregistrement de un enregistrement fait par Guido Kremer, oui, de sa pièce pour violon. Et c'est une pièce pour violon et deux bandes magnétiques, huit bandes magnétiques. Et il explique que Nono a écrit la pièce, il a terminé, enfin comme à la grande époque de Mozart, la veille du concert dans la grande salle de Berlin. Donc Kremer n'a pas eu le temps de la monter parfaitement, puisqu'il y a aussi des notes qui sont écrites tout à fait au-dessus des portées, donc dans l'extrême aigu, c'est difficile à déchiffrer, etc. Et Nono a... C'est devenu presque une pièce improvisée. Et puis à l'enregistrement, ils ont encore modifié. Et ça m'a donné des explications justement sur cette problématique. Pourquoi la bande n'est pas notée? Vraiment, je me le demande. Alors que la notation est tellement précise dans la partie de piano. Est-ce que il s'en fichait peut-être du fait qu'on allait beaucoup le jouer ou non? Est-ce qu'il était indifférent à ce problème? Parce qu'en général, les compositeurs aiment bien qu'on les joue et ils facilitent un petit peu la vie des interprètes. Or ici, déjà, bon, il n'y a pas tellement... Enfin, il y en a, mais il n'y a pas tant de pianistes qui jouent les œuvres très contemporaines. Et en plus, avec ce problème de montage de l'ensemble du piano et de la bande, c'est encore quelque chose qui rajoute à la difficulté de l'œuvre. Parce que déjà, l'œuvre, il faut la jouer au piano avant de la mettre en place. Hein? Donc voilà, c'est des questions que je me posais. Mais je pensais que vous auriez un tas de questions à poser sur la partition, qu'on pourrait un peu embrayer la discussion de cette façon-là. Hein? Pas encore. Je peux vous la rejouer.
Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que les agrégats sont en relation avec les harmonies et les cloches? Est-ce que vous savez s'il s'est appuyé sur la réalité des cloches?
Ah, alors là je n'en sais rien. J'avais très envie de retourner à Venise à la Toussaint. Et puis j'ai jugé que c'était utile de travailler mon piano à ce moment-là, donc je ne suis pas allée. Mais je vous le dirai la prochaine fois.
D'accord.
Oui. On a surtout le La et le La bémol. Hein. On a surtout ce La et le La bémol qui reviennent très fréquemment dans les cloches. Et donc, ce qui est très, très spécifique aussi chez lui, c'est donc au point de vue de l'écriture, quand il va calmer, il va aller vers Onde Serene, il a des petits accents comme des derniers moments de révolte, comme ça. Il reprend des notes, mais de forte et forte, et puis il reprend la même en piano. Et là, ça me fait parfois un peu songer, je fais toujours des analogies avec les compositeurs du passé, mais les grands crescendo de Beethoven qui, subitement, s'arrêtent et repartent au piano. Ce ne sont pas des accents, ce sont des traits chez Beethoven, mais c'est un peu le même principe. On monte, et puis tout d'un coup, on dirait qu'on se calme. Et même à la fin de l'œuvre, il y a encore un dernier accent. Même si c'est plus qu'en mezzo au piano. Hein. Il y a encore un dernier accent. Et on va le trouver ici aussi. Un double forte tout d'un coup. Donc on dirait qu'il y a un dernier moment de révolte avant le calme. Alors je crois qu'il y a une chose importante aussi que je n'ai pas dite, enfin qui me paraissait importante, puisque j'aime toujours relier avec les éléments du passé, puisqu'on va parler du côté iconoclaste chez Schaeffer. Je vais être un peu iconoclaste avec Junono, si je me permets. On a beaucoup de choses de Venise chez Nono, mais je dirais y compris les progressions du Vivaldi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la page 12, 11, 10 et 11, il y a une espèce de grande progression harmonique qui commence par des incises qui est très longue et qui se termine dans l'extrême aigu. Et je vais d'ailleurs vous la rejouer au piano parce qu'on aura du mal à la mettre ensemble. une autre. Alors quand on l'entend comme ça, on s'aperçoit vraiment qu'il manque quelque chose, hein, quand on n'a pas la bande, je pense. Et puis à côté de ça, il y a des passages qui sont d'une immobilité vraiment très curieuse, vraiment, on a l'impression qu'il ne se passe rien, justement après le passage très strident que je vous ai montré. Là, tout d'un coup, on arrive là. Avec des petites cellules, des petits agrégats. Voilà, deux, trois remarques au sujet de cette œuvre.